raffermai.
Avec la magie noire, le mystère de la tête d'or, le plus grand canular d'Angleterre, ce sont nos dossiers du jour dans le bureau des mystères.
Bonsoir, bienvenue dans le bureau des mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles. Et après notre petit épisode Bureau des Mystères, brillamment intitulé Bureau des Mystères de l'Amour, eh ben on en a reçu de l'amour, puisqu'on a eu un petit commentaire gentil, on a eu des bisous de la Réunion. On a eu depuis Tahiti, quelqu'un qui s'appelle Deadlicious Tropic, qui nous a dit qu'on arrivait à lui faire peur, même par 35 degrés sur les plages du Pacifique, donc ben, on vous remercie déjà. Et on a eu aussi un de nos auditeurs, François, qui est un contributeur de RetroNews. Donc RetroNews, c'est un programme de la Bibliothèque Nationale de France, hein, la fameuse BNF, et qui nous a envoyé tout plein d'archives numérisées en rapport avec notamment l'histoire d'Harry Price et aussi une archive numérisée de l'histoire de Borly. Donc on a reçu tout plein de coupures de journaux des années 20-30, et du coup on le remercie, on va consulter tout ça.
Ouais, ça a l'air vraiment complètement fou, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, beaucoup d'histoires différentes, ça part sur des gamines possédées, ça part sur évidemment beaucoup de travaux d'Harry Price. D'ailleurs, en parlant d'Harry Price, vous avez été nombreuses à avoir beaucoup aimé les histoires qu'on a fait dans le précédent numéro, notamment celle sur Borly. Et dans l'épisode sur Borly, j'avais introduit le personnage d'Harry Price. Et ben, vous savez quoi, ce soir on va retourner à Borly et je vais vous parler d'Harry Price.
Ah bah ça tombe bien parce que moi aussi je vais vous amener vers plusieurs de mes marottes puisque j'alternais entre CIA et Lyon. Et bah là je vais vous faire CIA plus Lyon dans le même numéro.
Eh bien écoute, je te propose de commencer tout de suite nos dossiers du jour.
Allez, c'est parti.
Le lac de la mort. En 1942, un gardien britannique du parc national de Nanda Devi en Inde a découvert un lac glaciaire isolé dans l'Himalaya, et lorsque les glaces ont fondu, on a découvert qu'il était rempli de squelettes. Comment sont-ils arrivés là? C'est la question qu'on se pose, et la réponse ne se trouve pas dans les livres d'histoire, mais dans les légendes locales. Alors, je vous emmène au nord de l'Inde, dans le massif de Trishul, dans les montagnes de l'Himalaya. Cette zone, qui est difficile d'accès, elle est à plus de 5000 mètres d'altitude, appartient au parc national de Nanda Devi. Nous sommes en 1942, et un ranger de ce parc, le britannique H.K. Madwal, fait sa ronde du côté du lac Rupkund. Ce lac glaciaire, qui est entièrement gelé environ 11 mois par an, est légendaire. On raconte qu'il a été créé par la déesse indienne Shiva. Les légendes disent qu'après une bataille acharnée contre des démons, la déesse Nanda Devi avait eu soif, et que Shiva, qui avait combattu à ses côtés, aurait créé ce lac pour étancher cette soif. En ce début d'automne 42, lorsque le ranger arrive au lac Rupkund, la glace a fondu et laisse voir un spectacle horrible. Le lac est rempli de squelettes, il y en a plus de 200, de différentes tailles, et certains, bien conservés par le froid, ont encore de la chair accrochée aux os.
Oh.
C'est une vision d'horreur. Une vision d'horreur qui a immédiatement amené les autorités britanniques à une question: qui sont ces corps au fond du lac? Et la première hypothèse en ces temps de guerre a été celle d'un régiment japonais. Les Japonais, qui étaient alors alliés au régime nazi, auraient pu prendre des chemins montagneux et se retrouver bloqués par une tempête dans cette zone-là de l'Himalaya. Mais cette piste a très vite été écartée parce que les restes humains étaient en réalité bien plus anciens. Dans un second temps, on a pensé à un bataillon de Zoravar Singh, qui était un général de l'Empire Sikh, qui était considéré comme le Napoléon indien. Et on sait qu'il avait disparu avec ses hommes dans la région de l'Himalaya aux alentours de 1841. En fait, il rentrait d'une campagne au Tibet, il aurait été pris par une tempête de neige, et il se serait retrouvé bloqué à cet endroit-là, et il serait mort de froid. Mais en réalité, c'est faux, parce qu'on sait où est mort le général. Des travaux d'historiens ont permis de le montrer, et ce n'est pas ici qu'il est mort. En fait, il est mort en décembre 1841 à la bataille de Toyo. C'était vers la fin de la guerre entre la Chine et l'Empire Sikh. Donc il n'est pas mort à cet endroit-là. Donc, qui sont ces squelettes? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans une des légendes qui entoure ce lieu. La légende locale raconte qu'il y a très longtemps, un roi de Kanouge, Kanouge c'est une ville située au sud de cette région-là.
Tu fais un cours d'histoire géo là.
Exactement, bah, c'est pour montrer la topographie de l'Inde. Là, on est dans le nord de l'Inde, hein, voilà, pour bien voir. Kanouge c'est au nord, mais nord moyen. Et vraiment, le Trishul, on est vers la zone de l'Himalaya, donc on est vraiment au nord, quoi. La légende locale raconte qu'il y a très longtemps, un roi de Kanouge serait parti en pèlerinage pour honorer la déesse Nanda Devi. Et bien que ses conseillers religieux lui aient recommandé de respecter le calme qui règne dans ces montagnes, il aurait emmené avec lui toute sa cour, compris ses danseuses, ses musiciens et sa femme enceinte. En arrivant au lac Rupkund, la reine aurait accouché, et elle serait devenue, par le sang versé sur ces terres-là, impure aux yeux de la déesse. Cela aurait rendu complètement furieuse Nanda Devi, qui aurait déclenché alors une terrible tempête, et des grêlons durs comme du fer seraient tombés du ciel, et toute la cour du roi aurait été tuée sur le coup, demeurant à jamais prisonnière de ce lac. Alors ça, c'est la légende, maintenant on va passer à la réalité. Ah. Puisqu'en 2004, une expédition a été organisée par National Geographic. Des morceaux de chair, donc récupérés sur les squelettes, ont été analysés, et la science a démontré que les ossements dataient du 8e siècle. Concernant les causes de la mort, le Hindu Times a évoqué la possibilité d'une épidémie ou d'un suicide rituel, mais en réalité ce n'est pas ça. Toujours sur le Hindu Times, hein, le directeur du centre qui avait mené les recherches a analysé l'origine des corps, donc il a bien pu déterminer que les corps étaient bien indiens et non pas chinois, hein, c'est important vu que la zone est frontalière et qu'à cette époque-là il y a beaucoup de déplacements de population. Donc il serait donc question d'un large groupe d'indiens du 8e siècle, ce qui collerait aux personnes qui sont mortes dans la légende.
Mais attends, les personnes du 8e siècle, il y aura encore de la chair dessus ? Sur les...
Ah, grâce au froid, ouais. Des petits morceaux accrochés au squelette. Un petit peu c'est comme s'ils avaient été momifiés par le froid,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Mais voilà, bah, on parle pas de gros morceaux,
ouais,
de chair,
oui.
On parle vraiment de morceaux qui peuvent être analysés, mais voilà, c'est petit quand même, c'est léger.
Oui, j'imagine qu'il n'y a pas toute une jambe avec...
Voilà, exactement. Mais le plus dingue là-dedans, c'est que là, tu te dis, bon, ce groupe d'Indiens du 8e siècle, bon, ça peut correspondre plus ou moins à ce roi et sa cour, parce que c'était dans ces années-là que Kanouge, voilà... Il y avait des rois qui pouvaient faire ce genre de déplacement. Et le plus dingue, c'est que les analyses sur une partie des squelettes ont permis d'établir les causes exactes de la mort du groupe. Et il s'agit à chaque fois d'un coup fatal à l'arrière de la tête, mais qui n'a été porté ni par une arme, ni par une avalanche, ni par un glissement de terrain. En fait, les marques sur le crâne et les épaules montrent qu'ils ont été frappés par quelque chose de rond, de la taille d'une boule de pétanque, possiblement des grêlons. Des grêlons énormes et durs comme du fer. Exactement comme dans la légende. Donc j'ai envie de te dire que le niveau de mystère est très élevé.
Et bah ouais, le niveau de mystère est assez élevé. Et il y a une concordance entre ce que racontent du coup les scientifiques qui ont été, j'imagine, mobilisés par National Geographic et la légende qui est assez intéressant du coup.
Bah oui, parce que ça nous montre qu'en fait, dans ce cas précis, eh bien la légende locale est peut-être basée sur un fait historique qui aurait été oublié.
Qui se serait transformé en légende et du coup potentiellement...
Voilà, qui aurait été romancé avec cette histoire de, voilà, de reine impure et de déesse qui laisse éclater sa colère.
Mais
il est tout à fait possible que ce soit vrai. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de classer cette affaire-là en disant que oui, pour une fois... La légende est vraie.
potentiellement vrai,
oui.
C'est pas aussi être des boules de pétanque lancées par un gang de Marseillais un peu plus haut, tu vois.
Non, voilà, non, je dis des boules de pétanque, mais c'est parce que j'ai francisé le terme, évidemment. C'était des chercheurs anglais qui ont dit que c'était des balles de cricket.
Ah oui.
Mais c'est à peu près la même taille. Je me suis permis cette petite liberté.
T'as fait que traduire, t'as aussi changé le sport.
J'ai marseillé la chose. J'ai marseillisé les grêlons. Donc voilà.
Belle affaire.
Écoute, j'espère que ce mystère t'aura plu.
Mais ouais,
ce
mystère j'ai beaucoup aimé.
Qui est très beau et qui est très poétique, finalement.
Ouais.
Même si c'est pas une raison pour une déesse de fracasser 200 personnes juste parce qu'une personne a accouché. Quand même, c'était quand même une déesse un peu réac,
un peu.
Si je peux me permettre.
Ouais, c'est ça.
Donc du coup, affaire
classée. La légende du parc de la tête d'or. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une histoire lyonnaise aujourd'hui. Donc déjà, gros bisous à tous les Lyonnais et toutes les Lyonnaises qui nous écoutent. Et donc je vais vous parler du parc de la tête d'or, puisque celui-ci, qui est bien connu, hein, c'est un parc que tous les Lyonnais connaissent, un très joli, très grand parc avec un grand lac au milieu. mais il porte ce nom, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, et je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, Mathias, il porte ce nom pour une raison bien précise.
Ouais, c'est vrai que je me suis souvent posé la question, mais j'ai jamais eu la curiosité d'aller chercher.
Et ouais, il fallait simplement taper sur Google pourquoi le parc de la Tête d'Or porte-t-il ce nom. Mais du coup, je vais vous le faire dans une version un peu plus longue. Puisque une tête de Christ aurait été trouvée au centre du parc quand les ouvriers en charge de sa construction s'attelaient à préparer les jardins. Et là, je vais vous emmener du coup à Lyon, mais un Lyon un peu différent, puisque je vais vous ramener au XVIe siècle. Et les terres, le territoire qui accueillera 300 ans plus tard le parc de la Tête d'Or, qui n'est pour l'instant qu'un grand terrain vague, d'ailleurs un grand terrain vague sur lequel le Rhône déborde couramment puisqu'il n'y a pas encore de digue pour le retenir. Et donc le territoire est à ce moment-là la propriété de la famille Lambert, mais se nomme déjà Tête d'Or à cause d'une légende. Puisque des barbares y auraient dissimulé des richesses au moment de leur passage. Alors, les histoires diffèrent. Des fois, on a des barbares, des fois, on a les croisés. Je ne savais pas trop historiquement sur lesquels me baser, donc j'ai gardé des barbares. Ils y auraient dissimulé des richesses en revenant de leur conquête, qu'ils ne pouvaient transporter. Ils ont du coup dissimulé des richesses, des trésors de guerre, dont une tête de Christ en or. Et cette légende aurait d'ailleurs, à ce moment-là, attiré quand même pas mal de curieux qui n'y auraient rien trouvé, du moins officiellement. Mais la légende va perdurer au travers des siècles, mais 300 ans plus tard, elle va quand même un peu tomber dans l'oubli. Et au moment de l'aménagement du territoire en parc au 19e siècle, toute cette histoire va un peu remonter à la surface. On a fait un petit bond en avant, puisque on est maintenant entre les années 1856 et 1857, et le préfet Vaïs présente un projet de parc public. Donc la ville de Lyon va accepter ce projet, et va redevenir propriétaire du terrain, qui était du coup toujours une propriété privée, va redevenir propriétaire du terrain pour réaliser ce projet de parc citadin, donc, qui était l'idée du préfet Vaïs, ce parc citadin qui était du coup à l'époque un projet assez monumental, hein, puisqu'on n'avait pas de parc en ville aussi grand, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a toujours pas. Sauf que le contexte politique à l'époque était un petit peu compliqué, parce que ceux qui s'y connaissent un petit peu en histoire lyonnaise savent qu'en 1831 et en 1834, les Canuts se révoltaient à cause des conditions de travail de l'époque.
Alors, tous nos auditeurs ne sont pas forcément lyonnais, donc j'allais te demander, voilà. Qu'est-ce que c'est les Canuts, Charles ?
Alors, justement, j'avais pile dans mes notes, il y avait marqué, pour ceux qui ne savent pas, les Canuts. Alors, les Canuts sont des ouvriers qui manipulaient et qui tissaient la soie, donc au moyen de métiers à tisser. Et ils se trouvaient en grande partie dans le quartier de la Croix-Rousse, donc en fait, chez moi, à ce moment-là, et ils utilisaient notamment les traboules pour passer rapidement d'une rue à l'autre, en évitant le trafic, mais surtout en évitant d'abîmer la soie qu'ils transportaient. Et là, tu me dis, tout le monde n'est pas lyonnais, qu'est-ce que c'est les traboules ?
Exactement.
Du coup, je te fais un deuxième petit paragraphe. Donc, les traboules, ce sont des passages qui ne sont en principe pas affichés sur les cartes classiques, qui permettent de traverser les rues mais par les cours intérieurs. C'est-à-dire que ce sont des petits passages qui permettent de passer de cours intérieur en cours intérieur et qui, du coup, permettent d'éviter le trafic principal pour se rendre d'un point A à un point B. Il y a des traboules, notamment dans le Vieux-Lyon, et il y en a aussi à la Croix-Rousse. Et moi, par exemple, ça m'est bien utile parce que je peux aller au lavomatic depuis chez moi uniquement en traboule. Voilà. Donc ça servait aux ouvriers en 1830 et ça sert à moi-même en 2018.
Exactement comme eux, tu peux conserver tes bas de soie de manière tout à fait propre dans la rue.
Exactement, sans les abîmer ni quoi que ce soit.
Et Dieu sait à quel point tu tiens à ton peignoir en soie.
Si tu savais. S'ils sont connus aussi, ces chers Canuts, c'est parce que le mouvement social qu'ils ont entraîné et qu'ils ont provoqué va en fait être à l'origine de nombreux mouvements sociaux par la suite, et de nombreuses théorisations des mouvements sociaux par Marx, Proudhon, Fourier et autres. Donc ça va être un mouvement social qui va être historiquement très important. Et donc il y avait pour cause les mauvaises conditions de travail et en fait le chômage qui devenait de plus en plus fort dans le cadre des métiers de la soie. Et du coup, le projet de la ville va un petit peu tomber à pic, puisque les canuts, qui sont au chômage, vont être remobilisés pour travailler à l'aménagement du parc, qui ne porte pas encore à ce moment-là le nom de Parc de la Tête d'Or, évidemment, même si c'est pas du tout leur métier à la base. Donc les canuts vont être équipés en pelle et en pioche, et on va les envoyer creuser, ce qui sera plus tard du coup le lac du Parc de la Tête d'Or. Donc pour éviter les émeutes, pour éviter juste que tout ça parte en cacahuète, ils vont les envoyer travailler ailleurs. C'est juste de l'autre côté du Rhône, hein. Au passage, c'est pas très loin. Pour rappel, le parc, et le lac du parc surtout, c'est 900 000 mètres cubes de terre qui seront déblayés par les canuts, hein. Il n'y avait pas de tractopelle à l'époque, et réutilisés pour l'aménagement des digues du Rhône, donc c'est énorme, hein, 900 000 mètres cubes. Et en fait, c'est tellement énorme qu'il y a énormément de canuts. Les plus chanceux vont finir à l'hôpital, mais les moins chanceux vont mourir durant ce chantier qui va être complètement exténuant et qui va venir à bout de plusieurs d'entre eux. Et parmi ces ouvriers donc, qui ont été remobilisés pour creuser ce lac, la légende d'une tête de Christ en or un petit peu perduré, tu vois, au travers de cette communauté de tisseurs. Ou du moins, en tout cas, ils la connaissent. Ils se disent tous que peut-être qu'en creusant, il y en a un qui fera une heureuse découverte, et ils espèrent un peu tomber sur cette tête d'or en Christ. Les jours passent et continuent de passer, et les ouvriers ne trouvent rien. Jusqu'à ce que, peu avant la fin des travaux, au moment où le lac était quasiment fini d'être creusé, la pioche d'un ouvrier va buter sur un objet un peu plus dur. Et en déblayant la terre autour, il va se rendre compte que c'est la fameuse tête d'or du Christ qu'il va trouver. La tête était apparemment assez volumineuse. Il aurait essayé de la cacher, mais sans succès. Ses collègues de travail ont donc vu sa découverte. Et suivant la légende, ce serait un peu amassé autour de lui. Et une dispute aurait commencé à éclater entre les ouvriers. On est un peu Seigneur des Anneaux, là. C'est un peu comme si Frodon trouvait l'anneau et que tout le monde voulait attraper le précieux autour. C'est un peu ça, mais sauf que c'est une tête d'or en Christ qui apparemment pèserait plutôt dans les 30 ou 40 kilos. Et aucun ne voulant partager la tête, ne parvenant pas à un accord, dirait-on, les ouvriers, du coup, sont mis à se battre. Ils sont mis à se battre très violemment. Il y en a eu plusieurs qui auraient été blessés à ce moment-là. Et la tête du Christ, donc avec ses yeux en or massif, hein, la tête du Christ, voyant le malheur que sa seule présence pouvait apporter, a versé une larme. A versé une larme. La légende dit qu'une larme aurait coulé le long du visage du Christ. Et cette larme, elle aurait coulé. Et une autre larme serait venue, et il aurait commencé à pleurer de manière abondante. Et il aurait tellement pleuré, que le lac se serait formé ainsi, et que la tête de Christ aurait définitivement été engloutie par ses propres larmes, juste au moment de la fin des travaux. Donc évidemment...
C'est tellement poétique.
C'est tellement poétique, t'as vu ça un peu ? Donc évidemment, il s'agit ici d'une légende, mais d'une légende qui fait partie du folklore lyonnais, qui circule. Et aujourd'hui, alors j'ai jamais vu des gens creuser dans le parc de la Tête d'Or, ni plonger dans le lac pour essayer de retrouver la tête de Christ.
Mais il y a eu c'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu l'idée de prendre leur combinaison de plongée et d'aller essayer de trouver la tête ?
J'y vais de temps en temps au parc de la Tête d'Or et j'ai jamais vu ça. Mais apparemment, il y aurait eu des fouilles. Et jamais rien n'a été trouvé, ni aucun trésor de guerre des barbares ou des croisés ou de que sais-je encore. Mais du coup, j'ai trouvé cette petite histoire que j'aime particulièrement, que je trouve assez jolie, même si évidemment elle a un niveau de mystère qui est un peu élevé, parce que rien n'empêche qu'à un moment, à un endroit qui n'ait pas été creusé, il y ait un trésor de guerre qui a été enfoui. Mais un niveau de mystère assez faible si on considère la légende seulement de la tête d'or, évidemment. Mais en tous les cas, c'est comme ça que le parc se nomme, aujourd'hui. Et j'ai lu cette petite histoire sur le blog WordPress de quelqu'un qui s'appelle Fénote. Alors Fénote, pareil, c'est une expression lyonnaise, du coup, ça c'est génial, parce que quand on se balade dans le tram lyonnais, il y a un petit dictionnaire des expressions lyonnaises qui passe sur les écrans. Et Fénote, notamment, c'est une expression un peu intime qui désigne une jeune femme sympathique. Donc voilà. J'ai trouvé cette histoire sur son blog et je l'ai trouvé particulièrement jolie, et je l'ai retrouvé après dans d'autres médias, notamment Lyon Capital, un média local.
Ouais, on sait à quel point tu aimes Lyon Capital.
Oui, bah ouais.
Écoute, merci, je suis très content de savoir dorénavant pourquoi le parc de la Tête d'Or s'appelle comme ça. Je pense que nos auditeurs aussi. Et je te propose de passer à un autre dossier.
Le plus grand canular d'Angleterre. Alors, dans le dernier épisode du Bureau des Mystères, nous avons parlé du presbytère de Borley, qui a longtemps été considéré comme la maison la plus hantée d'Angleterre. Et ce petit surnom, ça lui vient de l'enquêteur du paranormal Harry Price, qui était un drôle d'énergumène, comme je vais vous le dire ce soir. Alors, j'avais parlé du presbytère de Borley, qui est situé dans l'Essex, en Angleterre. Dans notre numéro Bureau des Mystères de l'Amour, j'ai raconté la légende qui a lancé tout l'intérêt autour de cette maison qui était soi-disant hantée. Donc cette histoire, c'était une tragique histoire d'amour entre une nonne et un moine, et d'ailleurs, si vous pouvez l'écouter tout de suite, si vous ne l'avez pas déjà écouté, vous allez écouter le Bureau des Mystères de l'Amour, c'est une des histoires. Et je vais reprendre quelques mois avant le moment où on s'était arrêté la dernière fois. Je vais reprendre très précisément le 2 octobre 1928, quand le révérend Smith et sa famille s'installent à Borley. Alors comme je le disais la dernière fois, les Smiths savaient qu'il y avait des phénomènes soi-disant paranormaux, notamment le fantôme d'une nonne et d'une calèche sur le terrain, qui avait été observé par les précédents occupants du presbytère. Alors lorsqu'ils s'installent, la maison est à l'abandon depuis plus d'un an. Certaines pièces sont tout bonnement insalubres, inhabitables, les planchers sont usés, il y a des fuites dans le toit, il y a de l'eau qui coule, les tuyaux sont cassés, donc c'est vraiment une vieille maison, un petit peu laissée à l'abandon, donc forcément, il y a du bruit dans le silence de la nuit, c'est une maison qui vit. Et donc avec ces légendes de fantômes qu'il y avait déjà autour du lieu, qui ont été, pour rappel, entièrement montés hein, par la famille Boulle, par les premiers occupants, bon, on a vite fait de s'imaginer des choses dans cette maison. Et justement, Madame Smith, assez rapidement, hein, après l'emménagement, elle commence à entendre des bruits de pas d'origine inconnue. Il y a des servantes, donc, qui étaient sans doute un peu inspirées par la légende qu'il y avait, hein, qui disent qu'elles ont vu, elles aussi, le fantôme d'une calèche tirée par deux moines sans tête et le fantôme d'une nonne. Et un soir, le révérend Smith, en personne, lui, essaie même de donner un coup de bâton dans le noir à ce qu'il estime être l'origine des bruits de pas, mais son bâton frappe le vide, évidemment. Une nuit de printemps, sa femme aperçoit carrément elle-même la calèche fantôme. Donc là, c'en est trop, elle décide d'appeler le Daily Mirror, la Society for Psychic Research, qui sont des enquêteurs du paranormal de l'époque. Et donc c'est à ce moment-là qu'on parle de Borley dans la presse nationale, et c'est à ce moment-là que l'histoire que je racontais la dernière fois intervient. Donc maintenant, on arrive juste après. Le 12 juin 1929, c'est-à-dire deux jours après la publication dans la presse nationale de l'histoire de Borley, le SPR, donc c'est la Society for Psychic Research, décide d'envoyer un de ses enquêteurs, je mets de gros guillemets en enquêteur, qui s'appelle Harry Price, et il arrive à Borley. Alors Harry Price, il est né à Londres en 1881, il a d'abord été acteur à l'âge de 15 ans, et c'est important pour la suite de savoir ça. Et dès sa jeunesse, Harry Price va complètement bidonner son CV. Il dit qu'il a pratiqué des expériences auxquelles il n'a absolument jamais été relié. Il va dire qu'il a participé à des fouilles archéologiques alors qu'il n'en a jamais faites. Il écrit même dans la presse de l'époque des articles sur des vieux artefacts qu'il aurait découverts en parfait état, genre presque neuf, sauf qu'il a été prouvé plus tard que c'était tous des faux. Mais ça a fait la blague pendant des années. Et donc quand il intègre le SPR en 1920, Harry Price est considéré étonnamment comme quelqu'un de sérieux. Parce qu'on n'a pas encore démenti.
Ils n'ont pas regardé, ils ne sont pas allés fouiller du coup.
Donc pour le prouver, pour prouver que c'est quelqu'un de sérieux, il n'hésite pas à aller débunker des stars du paranormal de l'époque. Donc il dénonce des faux médiums, il démontre notamment le célèbre photographe de spectre de l'époque qui s'appelait William Hope. C'est Harry Price qui a démonté tous ses travaux, qui a démontré que c'était des fausses photos de spectre. En fait, il a passé ses 8 premières années au SPR à démonter des phénomènes en disant que c'était faux et à se faire passer pour un expert de l'occulte. Il s'est même dit, pendant ces 8 années, capable de communiquer avec les esprits. En fait, c'était surtout un grand comédien. Mais à ce moment-là, il dit qu'il sait communiquer avec les esprits, qu'il maîtrise à fond le surnaturel. Donc forcément, quand il arrive à Borley, eh ben, on considère que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Le problème, c'est que dès qu'il arrive, les phénomènes deviennent complètement fou. Mais alors vraiment, on est loin des simples apparitions et des bruits, hein. Là on est vraiment sur des phénomènes très impressionnants, c'est-à-dire que dès une des premières nuits où il est là, de l'eau dans un verre se transforme en encre, il y a des objets qui se mettent à voler dans les airs et à se briser contre les murs, on entend des voix à travers la trame d'un miroir, il y a des cloches qui se mettent à sonner de manière inexpliquée, alors les servantes se mettent à voir des fantômes dans absolument toute la maison, il y a des clés qui s'envolent des serrures, il y a des objets qu'on retrouve brisés, les bruits de pas qui jusque-là étaient plutôt ténus commencent à s'intensifier et deviennent très forts, enfin bref, la maison Borley devient littéralement un train fantôme. Et comme par hasard, tout ça ne se produit que lorsque Harry Price est dans les environs. Alors Madame Smith, elle commence à s'agacer, hein, elle soupçonne que Harry Price puisse être à l'origine de ces événements, elle se demande si on n'a pas affaire à un canular orchestré par Monsieur Price, sauf que, étonnamment, il n'est pas viré à ce moment-là. C'est juste que les Smiths commencent à être épuisés par tous ces phénomènes, et surtout par tous les visiteurs qui commencent à arriver à Borley, parce que, je le disais, l'affaire a pris une ampleur dans la presse de l'époque, donc du coup il y a des gens qui commençaient à arriver dans ce petit bout de campagne anglaise pour essayer de voir ce qui se passait au presbytère. Et donc en avril 1930, les Smiths décident de quitter la maison. Elle reste inoccupée pendant 6 mois, et Price, à ce moment-là, bah, il n'a plus de travail, donc il rentre à Londres. Il commence à travailler sur son premier livre, Le presbytère de Borley, la maison la plus hantée d'Angleterre.
Ah, il avait déjà.
C'est à ce moment-là qu'il commence à travailler dessus. Oui, et c'est lui qui lui a donné surnom. Ouais. Donc c'est lui qui il a consacré 2 livres à l'affaire. Alors, le 16 octobre 1930, une troisième famille s'installe à Borley. Cette fois-ci, c'est les Foister, et avec eux, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'entre 1930 et 1932, le révérend Foister a relevé plus de 2000 phénomènes inexpliqués. C'est énorme.
C'est des objets qui disparaissent. En combien de temps, tu dis ?
En 2 ans.
En 2 ans ? Ah ouais, carrément, ça fait plus d'un par jour.
En fait, il avait un carnet dans lequel il notait tous les phénomènes surnaturels qui se passaient sur place. Donc, il dit des objets qui disparaissent, des odeurs étranges, des voix mystérieuses, carrément des fenêtres qui se brisent cette fois. Marianne, sa femme, Marianne Foister, serait elle-même victime d'une entité agressive qui lui jetterait des pierres. Donc l'esprit devient... Si esprit il y avait sur les lieux, il devenait extrêmement violent. Alors en septembre 31, le couple a décidé d'appeler Harry Price à la rescousse, ce qui est normal, vu que c'est lui qui connaissait le mieux Borley. Alors Harry Price fait un retour triomphant à Borley, et il soupçonne immédiatement Marianne Foister de tout inventer et de faire des mises en scène. Parce qu'évidemment... les Foister connaissent eux aussi l'histoire du lieu. Et je rappelle que dans le précédent numéro, on avait on avait parlé du témoignage d'un jeune homme qui habitait à Borley à l'époque quand il était adolescent, et qui disait que, selon lui, tous les locataires successifs de Borley avaient entretenu la légende sciemment. Ouais. Donc justement, on rentrerait là-dedans. Alors, ce qui se produit dès l'arrivée de Harry Price le conforte dans l'idée que Marianne a tout inventé, puisque Marianne dit qu'elle voit le fantôme du premier propriétaire de la maison et qu'elle a rencontré une créature monstrueuse dans les couloirs semblable à une chauve-souris géante.
C'était donc, Batman on...
Exactement. Il y a des messages qui commencent à apparaître sur les murs également, et tout ça, évidemment, ne se produit que quand Marianne est là. Donc Harry Price, qui s'y connaît plutôt bien en fait, visiblement n'aime pas être concurrencé sur son propre terrain, va dire que Marianne est à l'origine de tout ça. Sauf que le révérend Foister, lui, il croit sa femme, et il est persuadé que sa femme est médium, il le prend très mal, et du coup, Harry Price se fait tout simplement virer de Borley.
Mince, il n'y a pas prévu ça.
Alors, au bout de 5 années de soi-disant hantise, les Foister se décident à quitter le presbytère de Borley, mais Harry Price, qui ne voulait pas en rester là et qui a attendu tapis dans l'ombre pendant tout ce temps, puisqu'il sait que c'est l'affaire de sa vie, il le sent, eh bien, il décide, en mai 1937, de louer le presbytère de Borley lui-même, puisqu'il est désormais inoccupé. Alors, il passe une petite annonce dans la presse où il dit qu'il cherche des personnes prêtes à enquêter pendant 1 an dans une maison hantée avec lui. Il reçoit plus de 200 réponses quand même, et il reçoit une cinquantaine de braves enquêteurs, et ensemble, il retourne à Borley. Et il constate plus ou moins la même chose que les précédents occupants, c'est-à-dire les bruits inexpliqués, des apparitions sur les murs, mais aussi des taches lumineuses, parfois, et l'apparition d'un manteau qui n'appartenait à personne dans le hall de la maison. Qui l'a placé ici ?
Batman.
Sans doute Harry Price, mais voilà. C'est peut-être le manteau de l'énorme chauve-souris Batman. Alors, le 23 octobre 1937, donc là, on est quelques mois après l'arrivée d'Harry Price à Borley pour la énième fois, une séance de planche Ouija est organisée à Borley, et là, 2 esprits sont contactés. Le premier esprit, c'est celui, soi-disant, de Marie Lair, une religieuse française qui serait venue en Angleterre au XVIIe siècle. Elle se serait mariée avec Henry Waldegrave, le propriétaire d'une maison de maître qui est située sur le terrain du presbytère de Borley.
Une nuit, il l'aurait étranglé, puis ensuite il aurait jeté son corps dans un vieux puits. Le deuxième esprit, qui lui n'a pas été identifié, assure que les os d'une personne assassinée seront bientôt retrouvés à Borley. Alors Harry Price, lui, connecte les fils à ce moment-là. Il dit, ah, tiens, j'ai peut-être moyen d'avoir une histoire qui se tient. Donc il dit que puisque l'histoire de la nonne et du moine amoureux est fausse, hein, comme il l'a lui-même avoué dans un de ses livres, il se dit que la nonne qu'on observe à la maison, c'est forcément Marie Lair. Et que ce serait elle qui serait à l'origine de tous les phénomènes, y compris les appels à l'aide gravés sur les murs, puisqu'elle serait enfermée dans la maison au fond d'un puits.
Et donc lui, il y croit quand même un peu à ça.
Alors on saura jamais si Harry Price y croyait réellement ou s'il a inventé tout ça pour se faire mousser. Ouais. En tout cas, à ce moment-là, il raconte cette histoire qui, selon lui, se tient plutôt bien. D'autant plus que, 6 ans plus tard, comme c'est commode, alors qu'il fait des fouilles dans les ruines de la maison, parce que la maison a été en partie détruite par un incendie à ce moment-là, il tombe, comme par hasard, sur un petit puits, profond de seulement 3 mètres. Et au fond, il retrouve quoi ? Un os de mâchoire et un fragment de crâne qui appartiennent, selon lui, à une femme. Et là, on pourrait se dire, affaire classée, la boucle est bouclée. Sauf que pas du tout, parce qu'un villageois de l'époque a dit qu'il s'agissait d'une mâchoire de porc, non pas d'une mâchoire humaine, et beaucoup de monde a accusé Harry Price d'avoir placé lui-même ses ossements à cet endroit.
Mâchoire de porc, ça ressemble vraiment à une mâchoire humaine ? Pour qu'on puisse les confondre.
Je ne saurais pas comparer les deux, mais c'est ce qui est en tout cas raconté. Donc alors, soit Harry Price faisait un canular très grossier, soit ce n'était pas exactement une mâchoire de porc, mais une mâchoire d'autre chose. Mais en tout cas, voilà, on l'a accusé lui-même d'avoir placé ses ossements qui ne seraient même pas humains en fait. Donc tout ça, toute cette polémique qui commençait déjà à apparaître à l'époque, parce qu'on voit dans des journaux de l'époque que Harry Price était déjà considéré comme un guignol par certains journalistes de l'époque, voilà. Ça ne l'a pas empêché d'écrire 2 livres sur Borley, dont le plus connu, qui est sorti en 1940, qui s'appelle « La maison la plus hantée d'Angleterre », et c'est pour ça que Borley était appelé comme ça. Donc la maison a été en partie ravagée par un incendie accidentel en 1939, donc encore une fois, c'était sur fond de phénomènes paranormaux, mais je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse, et a été entièrement détruite en 1944. Et pendant que les ouvriers s'occupaient de la démolition, Harry Price est encore une fois, pour la dernière fois, revenu à Borley. Cette fois-ci, il était accompagné d'une journaliste et d'un photographe du magazine Life, et parmi les photos qui ont été prises ce jour-là, on voit, très nettement, une brique du presbytère qui semble être en lévitation.
Ouh.
Photo de fantôme. En tout cas, Harry Price a essayé de s'en servir pour tenter de prouver que la maison était hantée, mais ça n'a pas du tout fonctionné, puisque les deux journalistes ont confirmé qu'il s'agissait tout simplement d'une brique qui avait été lancée par un ouvrier et qui avait été photographiée au bon moment. Harry Price est mort en 1948, et l'historien local Andrew Clark, dont j'avais parlé dans le précédent numéro sur Borley, raconte qu'après sa mort, la Society for Psychic Research a cherché à vérifier les travaux de Harry Price. Et en 1952, ce sont eux qui ont recueilli en premier le témoignage d'Ethel Boole, donc une des premières personnes à avoir soi-disant vu les fantômes de Borley. Elle a dit qu'Harry Price avait l'habitude d'exagérer ce qu'elle lui disait dans ses rapports. C'est-à-dire que, par exemple, elle a dit qu'elle avait cru voir quelque chose au crépuscule, et Harry Price, dans son livre, a écrit qu'elle avait vu une apparition à de multiples reprises, par exemple.
Non, c'est elle.
En ce qui concerne l'apparition célèbre de 1900, hein, la plus connue dont je parlais dans l'épisode précédent, les 4 filles n'avaient pas vu le visage de la nonne, il n'y avait pas assez de lumière, tout simplement, hein, on était au crépuscule, ce qui n'a pas empêché Harry Price d'écrire qu'elle avait une expression d'intense chagrin sur le visage.
Ah, il se permettait des commentaires, en fait, qui étaient un peu...
Exactement, et il décrit, par exemple, des apparitions, entre guillemets, en plein jour, alors que c'était à 22h.
D'accord.
Donc voilà, il n'était pas très précis, il avait souvent tendance à en faire des caisses, à vraiment enjoliver la réalité, voire carrément imaginer des choses, hein. Et l'enquête du SPR a prouvé qu'il avait tout simplement tout inventé. Et c'est à ce moment-là que Borley, enfin tout inventé, quasiment tous les phénomènes qui n'étaient pas explicables naturellement avaient été inventés par Harry Price. Et c'est à ce moment-là que Borley est passé du statut de maison la plus hantée d'Angleterre à plus grand canular de l'Angleterre. D'où le nom de cette histoire. Et cette fois, on peut dire que l'affaire est vraiment classée.
Complètement classée.
Ou presque.
Ah non.
Non, mais je pense pas que ça fera l'objet d'une histoire en entier, mais sache que les Warren, hein, ceux qu'il y a dans les films The Conjuring, sont allés à Borley en 1976.
Évidemment.
Borley, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de maison, hein, mais ils sont allés à l'église de Borley, qui est située sur le même terrain, et ils disent, tiens-toi bien, avoir vu le fantôme d'Harry Price.
Oh, dis donc, quelle mise en abîme.
Comme quoi, il ne serait jamais parti. Son histoire a toujours été intimement liée à Borley, et il aurait décidé d'y rester.
Ouais, c'est une belle histoire avec du coup un niveau de mystère qui est aujourd'hui assez faible.
Qui est aujourd'hui au niveau du néant, ouais. Hein, puisqu'il a été prouvé que tout était faux à Borly. Mais une histoire que j'aime beaucoup, ah bah parce oui, que ça montre l'acharnement d'un mec qui estime avoir trouvé l'affaire de sa vie. Et en fait, c'est fou qu'il y croit ou non, en fait.
Oui, ouais, c'est vrai.
S'il y croit, c'est l'entêtement d'un homme qui est persuadé que cet endroit est l'endroit le plus hanté du monde, et qui va y consacrer toute la dernière partie de sa vie. Et si c'est un fake, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tenu vraiment à jouer le fake jusqu'à la fin de sa vie, quitte à y retourner alors que la maison était en train d'être détruite, je trouve ça complètement fou. Donc voilà, c'était une belle histoire que j'avais envie de raconter pour lever enfin définitivement le mystère sur le presbytère de Borly.
Et bah, affaire classée.
Affaire classée.
Quand la CIA fricotait avec la magie noire. Alors là, on va revenir sur une de mes marottes, sur une de mes histoires préférées, puisque je vous ai déjà parlé de MK Ultra, le programme militaire de la CIA qui a été développé pendant la guerre froide et qui visait tour à tour à manipuler les esprits, utiliser des drogues, tester leurs effets, interner des gens pour les torturer, balancer une bactérie mortelle dans le métro de New York, plein de trucs cool, plein de trucs vraiment chouettes. Et donc, MK Ultra, hein, pour un petit reminder, c'était un programme général sous lequel sont regroupés 150 sous-programmes, donc beaucoup plus précis. Donc MK Ultra, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à le présenter de manière générale, mais c'est plutôt un label qui regroupe des activités. Chacune de ces activités, du coup, avait un but et tentait d'y parvenir de différentes manières, hein, que ce soit le contrôle de foule, l'usage de drogue ou autre. Et ce soir, du coup, j'ai envie de vous parler d'une de ces branches qui s'appelle MK Often, donc comme souvent en anglais, O-F-T-E-N, pour être exact. Et donc MK Often, qui est un sous-programme de MK Ultra et qui a été coordonné en coopération entre la CIA et le département américain de la défense, donc entre la CIA et le gouvernement, et qui a été officiellement lancé en 1968. Et c'est peut-être un des programmes les plus bizarres de ce label MK Ultra, hein, puisqu'on va voir qu'il y a un peu d'occulte qui se glisse là-dedans. Donc j'ai consulté, comme à mon habitude et comme c'est désormais ma passion, les documents déclassifiés de la CIA, donc qui sont accessibles, hein, souvent en PDF sur les internets. Celui que j'ai consulté là, que j'ai sous les yeux, fait 17 pages. Et officiellement, donc du coup, le département américain de la défense, comme le décrit le document, du coup, parle de MK Often, en ces termes. Il parle de tests du comportement et les effets toxicologiques de certaines drogues sur des animaux et des humains. Donc là, on n'a pas de magie pour l'instant, mais en revanche, quand on pitch officiel plus autant déjà, tu sais que ça va mal tourner. Hein. On parle d'effets toxicologiques de drogue sur humains et animaux, déjà, on part mal. Surtout qu'officieusement, Gordon Thomas, journaliste d'investigation anglais, avançait que Sidney Gottlieb, donc qui était à ce moment-là, au moment de MK Often, le directeur des services techniques de la CIA, utilisait l'opération Often pour, je cite, explorer le monde de la magie noire et, je cite toujours, maîtriser les forces des ténèbres et défier l'idée que certains des aspects de notre intériorité sont hors de portée. Le projet vise à créer un nouvel être humain psychocivilisé. On a besoin d'une traduction, moi j'en ai eu besoin en tout cas. En gros, c'est pour explorer l'esprit humain dans ses dimensions un peu cachées, tu vois, essayer de faire ressortir tout ce qu'il y a d'un peu sombre dans le but de manipulation mentale. Et pour ce faire, il y a eu une vague de recrutement. Du coup, donc, le début du programme, c'est 1968, hein, mais au milieu des années 60, il y a eu une vague de recrutement pour ce programme. Et c'est toujours très révélateur, hein, en termes ressources humaines, en termes RH, de voir les ressources un peu mobilisées dans ce type de programme, puisque ont été recrutés dans le cadre du projet Often des diseurs et des diseuses de bonne aventure. Des personnes aussi, tu sais, qui lisent ta ligne de vie dans la paume de ta main.
Oui, complètement, oui, je vois.
Voilà. Des gens clairvoyants, des astrologues, des médiums, des spécialistes en démonologie, des satanistes aussi, et sorcières et des sorciers.
C'est en quelle année ?
On est au milieu des années 60. Tu penses que les Warren en ont fait partie ?
C'est exactement ça, c'est à quoi j'ai pensé.
Ouais, j'y ai pensé aussi. Écoute, les documents ne font pas mention des Warren. en l'occurrence. Mais bon, il précise pas, en dehors de 2-3 personnes un peu connues, il précise pas forcément de qui il s'agissait, mais ils ont plutôt dressé une liste des types de recrutements qu'ils avaient fait.
Est-ce qu'il y a certaines personnes qui s'appelaient Yuri Geller en faisaient partie ?
Ah, Yuri Geller ?
Oui, j'en parlerai de Yuri Geller dans cette émission un jour.
Il me semble qu'on en avait parlé.
C'est un monsieur, pour vous la faire courte, avant que je reparle plus ou moins longuement dans l'émission, qui tordait des cuillères. Donc, avait-il vraiment des pouvoirs psychiques ? Était-il un espion de la CIA ou était-il juste un gros charlatan ? Je répondrai à cette question un jour.
Mais surtout, ce que j'ai envie de te demander, c'est d'imaginer la salle d'attente pour les entretiens d'embauche.
Ça devait être génial.
Ça devait être génial, ouais. Tu devais avoir le sataniste, le démonologue, la sorcière, le sorcier, les uns à côté des autres. Ça devait créer des bonnes discussions dans
J'imagine
les dans
juste leur CV, quoi.
Ouais.
Ouais. Écoutez, j'ai travaillé pendant deux ans pour la chaîne Voyance.
Voilà. Non, j'ai créé un sort une fois, et ben ça a fait revenir l'être aimé.
Je m'imagine des gens comme Merlin dans Kaamelott.
Ouais.
Un petit peu loser, tu sais.
Oh là là.
Bref, oui.
Du coup, de manière publique, donc en lien avec les ressources publiques du coup de la CIA, l'Institut d'ingénierie scientifique a financé, par exemple, hein, dans le cadre de MK Offen, des cours de fac en sorcellerie, en démonologie et en vaudou à l'université de Caroline du Sud. Donc ceci va conduire aussi à la mise sur pied d'un petit laboratoire, hein, sur ces pratiques. Donc rien d'alarmant, hein, pour l'instant on est sur quelque chose de relativement sympa. D'ailleurs ça nous donne tous envie, hein, sans doute de retourner à la fac pour avoir des petits cours de vaudou. Moi je serais pas contre perso de reprendre les études.
Mais écoute, je te cache pas que pour les histoires qu'on fait ici, ça nous aiderait parfois, des petits cours de démonologie.
Ouais, je suis assez d'accord. Et donc une grande part de ce projet va être en fait va être une histoire de relation avec des institutions. Et notamment, une part du projet était portée par l'Edgewood Arsenal Research Laboratory. Donc eux, ils ont avant tout créé des bases de données pour ordinateurs. Et on est en 1970 max à ce moment-là, hein, donc vraiment les premiers ordinateurs, en répertoriant les données obtenues sur les autres projets de MKUltra. Donc sur les sujets de type volontaire ou involontaire, en sachant que dans le document que j'ai consulté, par exemple, ils précisent toujours que les sujets étaient considérés comme volontaires. Voilà.
Considérés comme.
Et aussi, entre autres, il va y avoir des tests d'agents incapacitants. Donc, sans la participation officielle de la CIA, cette fois, c'est-à-dire que l'Edgewood Arsenal Research Laboratory va créer des agents incapacitants. Cependant, la CIA va prendre connaissance des résultats qui ont été, en fait, assez probants et va les noter comme intéressants pour son projet OFEN et va les racheter. va les reprendre à son compte, disons.
Ça, c'est-à-dire, c'était pour avoir une couverture que si jamais ça déconne, c'est
ouais,
pas nous.
Ouais, c'est pas
contre,
nous,
si
voilà.
Ça marche, on prend les résultats.
On prend, ouais.
Formidable.
Et surtout que la manière de répandre cet agent était particulièrement insidieuse parce que c'était un ruban adhésif que tu collais sur la peau humaine, c'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de boire quelque chose. Si par exemple quelqu'un te serrait la main avec du ruban légèrement adhésif dessus, bah, tu étais contaminé. C'est malin. Plus loin, on découvre aussi qu'avec un, je cite, un contractant basé dans le Massachusetts, mais qui n'est pas mentionné, la CIA a développé de nouvelles substances hallucinogènes. Toujours pour MK Offen, qu'ils vont plus tard combiner à d'autres drogues et aux fameux agents incapacitants. Ils vont essayer de combiner un peu tout ça. Mais en fait, ce qui ressort de ce document, et c'est ce que je me suis dit en le consultant, c'est que certes, ils testaient sur des sujets animaux notamment des rites de sorcellerie, des rites de magie noire. En effet, hein, il y a eu visiblement des rituels un peu obscurs. Ça donnait aussi ses cours à l'Université de Caroline du Sud. Mais que finalement, c'était plus de l'ordre du test qu'autre chose. Et que surtout, non seulement il le relatait, mais qu'en plus, c'était toujours en rapport avec des institutions, qu'elles soient publiques ou privées, mais des institutions officielles. C'est-à-dire des universités et des laboratoires. Et ça, pour le coup, dans les documents qui sont consultables, c'est rapporté comme tel. Sauf que, et c'est là que ça va dégénérer, puisque après ces travaux, un petit déplacement va peut-être s'opérer, c'est-à-dire que jusqu'ici, comme je disais, les travaux de MK Offen étaient surtout reliés à des établissements officiels, ou en tout cas au domaine public, sauf que la CIA aurait, selon plusieurs personnes, dont je vais vous parler juste après, aurait shifté ses programmes, on va dire, d'institutions publiques vers des groupes privés qui pratiquent du coup des cultes, disons, légalement et moralement répréhensibles pour éviter la surveillance gouvernementale qu'ils avaient jusqu'alors. Et là, on sait que ça sent mauvais. Donc du coup, certaines personnes au sein de MK Offen aurait, disons, lancé des programmes plus officieux avec notamment People's Temple, donc le Temple du Peuple, qui est une secte qui a été fondée en 1953 par le fameux Jim Jones, hein, et qui est connue du coup pour le suicide collectif en 1978 de 908 de ses membres, principalement par cyanure. Donc la CIA aurait eu des liens avec le Temple du Peuple qui ont été assez forts, à tel point que certains vont avancer et vont se demander sur le fait que le véritable gourou de la secte, ce n'était peut-être pas vraiment Jim Jones, mais le docteur Layton. Donc ce docteur Layton, qui est un monsieur qui a travaillé avec la CIA, mais pas seulement, qui a travaillé dans plusieurs laboratoires, si je ne dis pas de bêtises, en Californie, et qui a bossé avec la CIA, et qui, en fait, vont décrire Jim Jones avant tout comme un employé, un exécutif, mais certainement pas le cerveau de l'opération. Et là, c'est Michael Myers, donc pas l'acteur, hein, mais un autre monsieur qui, dans son livre « Was Johnston a CIA Medical Experiment ?», a récupéré des informations pendant plusieurs années auprès des membres du Temple du Peuple, et va conclure ainsi. Il va dire « L'expérimentation de Johnston a été conçue par le Dr Layton, équipée par le Dr Layton et financée par le Dr Layton, et que c'était beaucoup plus son projet que celui de Jim Jones. »
Mais est-ce que là, on est dans de la théorie complotiste ?
Et ouais.
Voilà, c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on est dans une vraie enquête journalistique très fouillée, ou est-ce qu'on est sur de la théorie du complot ?
Elle est présentée comme une enquête fouillée, avec des entretiens avec des personnes qui auraient été sous l'emprise de Jim Jones. Seulement, le document que j'ai eu, évidemment, sous les yeux, ne parle pas de tout ça. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit des ouvrages sur MKOpen en particulier. Enfin, pas MKUltra dans son ensemble, mais sur certains des sous-programmes de la CIA. Et qui vont mentionner MKOpen comme étant à la base, notamment, de relations avec les sectes. Et de pratiques occultes qui sont passées du « on embauche » des gens et on fait quelques tests et on enseigne ça à l'université, on a des pratiques avec des sectes qui pratiquent de la pédophilie ou autre, tu vois. Et avec vraiment des trucs vraiment horribles, tu vois. Et sauf que c'est extrêmement difficile parce que, ça je l'avais raconté et je terminerai là-dessus, les documents de MKUltra ont été, sur ordre du directeur de la CIA d'alors, donc Richard Helms, ont été détruits en 1973, et ceux qui restent aujourd'hui sont soit incomplets, soit complètement inexistants. Et que c'est là aussi que MKUltra est parfait pour les théories du complot. C'est-à-dire que les documents qui nous restent sont déjà tellement hallucinants que quand il y a des blancs qui sont laissés dans les documents, ou même des fois, parmi les documents que je consulte, il y en a qui sont masqués. C'est-à-dire que tu as des paragraphes qui sont blanchis, tu vois. Donc évidemment, c'est une énorme source de fantasmes, et c'est une source de fantasmes qui amène à des grands délires, comme dire que le massacre de Johnstown, et donc du coup le suicide des 908 personnes, était en fait une expérimentation de la CIA.
Ouais, en fait, les gens voient il y a beaucoup de trous dans les histoires, donc les gens, ils projettent un petit peu tout ce qu'ils ont envie de s'imaginer, quoi.
Voilà, et surtout, ça règle aussi plein de problèmes, tu vois, genre le problème de l'endoctrinement, qui était un endoctrinement potentiellement charismatique de la part de Jim Jones, ou autre, hein, d'ailleurs, je sais pas, il le règle par « c'est une expérimentation scientifique ». Mais bon, à la fin d'MKUltra, et en particulier d'MKOpen, ça va se détendre un petit peu, hein, puisque notamment en 1971, le programme, donc du coup, c'était 68, officiellement, hein, 68-73, le massacre a eu lieu en 78, donc ça voudrait dire qu'en 73, le programme n'aurait été arrêté, mais que officiellement. Donc en mai 71, sur la liste des opérations d'embauche mentionnées, il y a notamment trois astrologues qui ont été embauchés pour, je cite, « prédire l'avenir ». Toujours assez cool. Et en 1972, deux personnes sino-américaines qui travaillent par la lecture, par le toucher, qui ont été engagés par les services de renseignement, par MKOpen, pour essayer d'offrir aux services de renseignement des moyens de lecture tactile pour être plus discrète. Donc tu vois, là on est sur des trucs un peu plus réalistes, du coup.
D'accord.
et aussi le je terminerai vraiment là-dessus, aurait été approché, hein, mais là encore les vérifications sont compliquées, en 1972, le responsable des exorcismes de l'archidiocèse de New York, pour prendre part au projet MK Offen.
Ah, c'est trop bien.
Mais il n'a pas accepté.
Quel dommage. Il aurait pu tellement les aider. C'est vrai que la CIA aurait pu se battre contre les démons.
Ouais, voilà, ouais. Mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire, hein, dès le début, avec les démonologues et tout. Hein. Mais bon.
Ah, c'est beau. Bon, c'est... alors du coup, j'imagine que cette affaire... En fait, en termes de degré de mystère, on sera toujours très élevé parce que les gens vont toujours projeter des choses dedans. Et l'affaire ne sera jamais classée puisqu'on n'aura jamais ces documents qui ont été détruits.
Bah, et surtout, il y a un truc dont je me rends compte là, c'est que je crois que c'est la troisième émission. On avait fait le numéro 0, après il y avait un autre numéro, et là celui-là où je parle de la CIA, tu vois. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que c'est hyper compliqué. Plus on va dans les documents, plus on se rend compte qu'en fait, entre les différents sous-programmes, les buts sont les mêmes, tu vois. Les moyens d'y parvenir sont légèrement différents, mais les buts sont les mêmes. Et on se demande si en fait les 150 sous-départements d'MKUltra, c'est pas juste des niveaux de paperasse administrative qui sont là pour embrouiller tout le monde, quoi. Parce qu'il y a des drogues qui ont été utilisées dans tous les cas. Les objectifs, c'est de toute façon le comportement, essayer de réglementer le comportement humain. Donc j'ai l'impression qu'il y a plein de sous-programmes qui ont des. Et qui en plus certains ont encore des sous-programmes en eux. Et je pense que c'est avant tout là pour brouiller un petit peu les pistes sur MKUltra.
Eh ben écoute, j'allais dire affaire classée, mais non, ce ne sera pas classé.
Pas complètement.
Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci de nous avoir écoutés.
Le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille. D'ailleurs, à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, @BDMlePodcast, ou sur notre page Facebook, réintitulée depuis maintenant quelques temps, Charles et Mathias, ou même aller voir, j'ai vu qu'on nous laissait aussi des commentaires sur la page Riviera Ferraille, de notre hébergeur et de notre patron Henri Michel. D'ailleurs, j'ai un petit message aux Lyonnais qui nous écoutent. Du coup, je fais des histoires sur Lyon. Bon, bah voilà, du coup, j'habite sur Lyon, patati patata. Je me suis dit que, ayant reçu quelques messages de certaines d'entre vous, des messages très gentils d'ailleurs, pour lesquels je vous remercie, bah, n'hésitez pas à me recontacter, du coup, si vous voulez qu'on aille boire un coup entre auditeurs, auditrices du Bureau des Mystères. N'hésitez pas à utiliser nos messageries de nos réseaux sociaux pour le dire.
Vous pouvez également trouver Charles sur son propre compte Twitter. Hein.
D'ailleurs, oui, c'est quoi d'ailleurs, ton c'est vrai, @hauteparamonia, donc avec 2D, et paramonia comme ça se prononce. C'est vrai, j'avais pas pensé, j'y vais pas très souvent non plus, donc je le mentionne pas trop, mais ouais, vous pouvez aussi.
Eh bien écoutez, nous on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro du Bureau des Mystères, et en attendant, bonne chasse au trésor à la tête d'or.